Je vais aborder un sujet encore différent. C'est la mesure d'impact de moyens de régulation, en l'occurrence menée par l'assurance maladie, pour essayer de maîtriser les dépenses ou la pertinence des prescriptions. Quel impact aura eu sur les prescriptions de la rosuvastatine l'obligation d'accord préalable avant son instauration ? Mise en œuvre par la CNAM entre mars 2016 et juin 2018. Je répète que je n'ai aucun lien d'intérêt depuis plus de 17 ans avec les firmes qui fabriquent ou commercialisent des produits de santé. En juin 2018, l'assurance maladie abrogeait peut-être prématurément son action de régulation engagée en mars 2016 qui visait à améliorer la pertinence des prescriptions de rosuvastatine par une mise sous accord préalable des prescripteurs. La question se pose de savoir si les objectifs fixés par la CNAM avaient été atteints. Dans le cas des essais cliniques portant sur le médicament, il est avéré que leur arrêt prématuré conduise à la production de résultats qui le plus souvent surestiment le bénéfice réellement apporté. Cette remarque n'est pas anodine puisque Jupiter, le seul essai randomisé ayant étudié l'impact d'un traitement de rosuvastatine 20 mg sur des critères de morbimortalité, a justement fait l'objet d'un arrêt prématuré. La CNAM aurait-elle aussi arrêté cette action suite à la constatation d'effets encore plus favorables de son action que ceux qu'elle escomptait obtenir? L'objectif de ce travail, c'est de déterminer quel aura été l'impact de cette action de régulation qui a mobilisé nombre de praticiens conseils de l'assurance maladie et d'en tirer actuellement quelques enseignements sur des actions futures. J'ai travaillé à partir de trois séries de données de remboursement de médicaments publiées par la CNAM en accès libre. La série Medica Manuel 2001-2018, donc 19 années de suivi. La série Medica Mensuel, qui a été mise en open data beaucoup plus récemment, mais j'avais, au moment de ce travail, les données concernant janvier 2015-décembre 2018. Et j'ai construit une troisième série de données, que j'ai appelée d'ailleurs Medicam Cam. C'est assez drôle. Et le deuxième CAM n'est pas pour caisse d'assurance maladie, mais pour cumul annuel mobile. C'est-à-dire que j'ai construit les séries des 12 derniers mois glissants à partir des données mensuelles brutes. Par ailleurs, il a fallu que je trie les présentations pharmaceutiques par dosage et par conditionnement grâce à des requêtes travaillant sur les libellés, car ces paramètres ne sont pas individualisés dans des champs spécifiques des tables mises en téléchargement par l'assurance maladie. Ils ne sont pas non plus dans la base de données publiques du médicament. Et la CNAM ne publie plus depuis des années le fichier complet des codes CIP qui renfermait notamment les nombres limités par conditionnement. Donc un travail assez complexe quand même. Afin de ne pas mélanger les conditionnements mensuels et trimestriels, ce que font les bases médicales annuelles et mensuelles, une requête spécifique a été écrite afin de mensualiser les boîtes trimestrielles qui contiennent 84 ou 90 comprimés ou gélules. Et on a multiplié par 3 ces boîtes trimestrielles pour les ajouter au nombre de boîtes mensuelles pour n'avoir que des boîtes mensuelles. Le résultat des requêtes de sélection a été programmé sous Access et exporté dans des fichiers de calcul Excel et les graphiques suivants sont présentés à partir de ces données. Vous voyez, en janvier 2015, c'est-à-dire 14 mois avant le début de la mise sous accord préalable des prescripteurs, nous avions pour la rosuvastatine à 5 mg, le dosage le plus prescrit, une baisse engagée de prescription. On est en pourcentage de boîtes par mois, là c'est les données brutes mensuelles, qui s'est poursuivie sans accélération. On s'attendait à ce qu'il y ait une accélération de la baisse de prescription. On a la même chose sur la rosuvastatine à 10 mg. C'est un petit peu plus compliqué pour voir le 20 mg qui se trouve en dessous. Je passe en cumul annuel mobile, ce qui permet de lisser les variations, puisqu'on a en fait les 12 mois glissants chaque mois. Et donc là, vous le voyez aussi, c'est encore mieux, les courbes sont lissées. Donc le 5 mg est ici, le 10 mg ici, là. Le pourcentage de boîtes a continué à baisser avec même un léger ralentissement plutôt qu'une accélération. On n'a aucune accélération, donc on peut écarter toute conclusions d'effets et d'impact sur la prescription à la baisse de la rosuvastatine 5 mg. La maîtrise n'est que comptable, ce sont les baisses de prix, les pertes de brevets qui expliquent la diminution des remboursements. Et quelles sont les raisons de l'absence d'impact du dispositif de contrôle administratif des prescriptions de rosuvastatine mis en place par l'assurance maladie? Eh bien, en premier lieu, le logigramme qui était annexé au journal officiel de 2016 est un des exemples les plus pittoresques d'usine à gaz comme seule l'administration est capable d'imposer et qu'il faudrait montrer dans les facultés de médecine. Alors, je passe sur ce logigramme, vous comprenez qu'il faudrait passer 25 minutes pour l'expliquer. Il aurait été plus simple simplement et compréhensible de définir les conditions propices à un accord préalable octroyé par médecin conseil, à savoir soit être atteint d'une hypercholestérolémie familiale homozygote, c'est une centaine ou 200 cas en France, ou bien présenter un haut risque cardiovasculaire ou au moins trois facteurs de risque hors prévention secondaire, puisque il n'y a aucune étude en prévention secondaire concluante sur les critères de morbidité avec la rosuvastatine, et être intolérant à la atorvastatine ou à la simvastatine avec une condition de seuil de LDL cholestérol dans le deuxième cas pour mériter et justifier une prescription de rosuvastatine. Alors en second lieu, et je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé, l'absence de réponse de la CEPAM dans un délai de 15 jours valait acceptation de la prise en charge. Était-ce un délai trop court à tenir pour l'institution? Donc en fait, il ne s'est rien passé. La mise sous accord préalable des prescripteurs pour l'instauration de la rosuvastatine est un échec. Nous aurions pu également parler et faire le même constat pour l'ézétrole et l'inégie. Ézétimibe seul ou associé à la simvastatine, également sujet sur la même période à un dispositif analogue. Et je voudrais élargir en conclusion, plus globalement, toutes les actions de régulation menées par l'assurance maladie, je suis formel sur ce point, c'est-à-dire les entretiens confraternels, les visites de délégués de l'assurance maladie, les dames, la ROSP, les CAPI avant, rémunération sur objectif de santé publique, et donc aussi la mise sous accord préalable pour la rosuvastatine en instauration, se sont avérés incapables de soutenir la prescription des anciennes statines, la pravastatine et la simvastatine, qui ont toutes décliné, alors même que ces statines, même génériquées, sont de loin les moins onéreuses et que l'efficacité clinique est beaucoup mieux documentée pour ces statines plus récentes. Il faut souligner le fait que 90% des prescriptions de rosuvastatine sont faites par les médecins français au dosage de 5 mg et de 10 mg, qui n'ont jamais été associés à des résultats de bénéfices sur les critères de morbimortalité d'études randomisées. Le seul dosage associé, l'étude a été extrêmement critiquée, c'est l'étude Jupiter à 20 mg. Elle est très peu prescrite, c'est moins de 10% des prescriptions. Est-ce qu'on n'aurait pas pu expliquer ça déjà aux prescripteurs? Leur dire, écoutez, mais vous savez que vous faites du 5 mg ou du 10 mg, il n'y a aucune preuve qu'il y ait une réduction des décès cardiovasculaires, infarctus, etc. Dernier clin d'œil en conclusion, le renoncement de la CNAM à mettre en place des interventions visant à améliorer la pertinence et l'efficience des prescriptions au travers de l'exemple de l'abrogation du dispositif d'obligation d'accord préalable prend de l'ampleur et peut inquiéter lorsque l'on examine son rapport charge et produits 2019 intitulé « Amélioration de la qualité du système de santé, maîtriser les dépenses ». En effet, disons que c'est un aveu, alors je vous le lirai en annexe, c'est un aveu de comment la CNAM baisse les bras. Elle estime, si vous voulez, pour faire très court, qu'il vaut mieux prévenir des modifications de comportement de prescription, et donc agir avant, et que une fois qu'ils se sont mis en place, on ne peut plus rien faire. Ben, c'est faux, parce que moi j'ai l'expérience de campagnes de visites médicalisées de dames sur plusieurs régions, avec au moins trois CEPAM, où on a eu des impacts très significatifs sur les prescriptions, notamment de la rosuvastatine, mais aussi de la atorvastatine. On les a fait baisser, et on a augmenté, chez les médecins visités, la prescription de la pravastatine et de la simvastatine, avec un argumentaire qui s'appuyait sur les résultats d'études cliniques publiées. Voilà. Je vous remercie.